du coq à l'âne.
Ok, 3, 2, 1, let's jam.
Mesdames et messieurs, bonjour et mesdemoiselles, même si je sais que c'est tombé en désuétude, hein, on n'a plus le droit de dire demoiselles, mais bon, moi j'aime bien dire mesdemoiselles aussi par la même occasion. Bonjour, heureux de vous retrouver pour ce numéro 732 du coq à l'âne avec Michel Roussel et Jean Cointe, les deux coqueliens. Salut les gars.
Bonjour.
Bonjour, gentle dame et dame oiseau.
Et on peut dire ça comme ça. Et celui qui nous fait l'amitié d'être avec nous aujourd'hui, c'est Bernard Josso.
Oui, bonjour.
Salut Bernard, comment ça va depuis le temps?
Oh bah ça va, hein, je fais mon petit bonhomme de chemin. J'ai l'impression d'être un revenant ici.
Mais... Non, mais tu viens régulièrement. Hein.
Oui, oui, je viens de t'entendre.
Régulièrement, on t'invite.
Et avec grand, grand, grand plaisir.
Voilà, tu viens nous raconter un petit peu tout ça, tu viens nous dire plein de choses. On était parler justement un petit peu de ce qui se passait en France aujourd'hui. On parlera du régime parlementaire, puisque tu nous as fait une thèse il y a quelques instants. Mais pour le moment, eh bien ça y est, on ne connaît pas encore le nouveau gouvernement, mais on connaît la nouvelle première ministre, c'est Elisabeth Borne. Alors une réaction, première réaction, déjà le fait qu'on ait enfin une deuxième première ministre, Bernard.
Ah bah, moi, je suis, contrairement à ce que j'ai beaucoup entendu, puisqu'il semblerait que Elisabeth Borne suscite des réserves à peu près dans tous les camps, que ce soit d'abord le camp de la majorité, semble-t-il, qui n'a pas l'air enthousiaste. À gauche et à droite, on l'a traité à peu près de tous les noms. Moi, à titre personnel, je suis très content d'abord que ce soit une femme qui soit Premier ministre. C'était quand même... attendu depuis longtemps, longtemps, longtemps. Et la deuxième chose, c'est que Elisabeth Borne, ben pour moi, n'a pas le profil ni d'Édouard Philippe, ni de Castex. C'est quelqu'un qui, tout en étant techno, a quand même un vrai fond plutôt à gauche. Et alors après, on verra le gouvernement, parce que c'est quand même ce qui donnera la vraie couleur de la mandature qui s'ouvre. Mais en tout cas, le fait d'avoir... nommé Premier ministre Elisabeth Borne, pour moi c'est voilà, un petit signe d'ouverture qui est enfin bienvenu de la part de Jupiter.
On a quand même gardé notre Jupiter. Un avis les garçons?
Pour ce qui concerne, je pense que la lutte a été chaude pour choisir une candidate Premier ministre, puisqu'il y avait Catherine Vautrin qui était dans le circuit et qu'elle a été réfutée par la plupart des macroniste comme étant quelqu'un de droite, de clivant et surtout de sarkozyste. Donc il est clair que je pense que Mme Borne est quelqu'un de tout à fait estimable et qu'il n'y a pas de raison qu'elle ne fasse pas du bon boulot, et je sais que les difficultés ne vont pas manquer.
Pareil, moi j'ai pris cette annonce du bon côté. Je pense que c'est quelqu'un qui a démontré ses capacités, et quand on l'entend à la télévision, il n'y a pas d'exubérance, c'est quelque chose de précis, concis. Et elle a quand même une étiquette de bosseuse, donc ben voilà, moi je suis plutôt satisfait. C'est vrai que c'est quelqu'un qui vient de la gauche, on va voir, enfin qui a une culture de gauche, on va voir un petit peu ce que ça va générer.
Espérons quand même qu'elle ne sera pas attaquée comme Edith Cresson. Vous vous souvenez de la période Edith Cresson?
Oui, mais je crois que c'est déjà fait, c'est parti.
Oui, c'est déjà parti.
Ouais, c'est déjà
non,
parti.
Mais tu as raison, c'est déjà parti.
Cresson, on pouvait suspecter le fait qu'elle ait des relations... intime avec Mitterrand.
Ah oui, non, mais même ça, c'est
et même d'abord, ça, c'est rien, ça te regarde pas.
C'est complètement.
Regarde pas, exactement. Mais à l'époque, je veux dire qu'elle a été nommée pour ça.
Mais toi, t'étais dans les petits papiers de tonton pour savoir qu'il l'avait nommé pour ça. Je vous propose un retour en arrière. Donc,
pas besoin d'être un gros historien pour savoir. Pratique de tonton.
Oh, mais c'est... Et retour en arrière, quelques années en arrière, la nomination. Écoutez.
Bonsoir, une grande première dans l'histoire de la République française, une femme. Va diriger le gouvernement. Le nouveau Premier ministre qui succède à Michel Rocard s'appelle Edith Cresson.
Je suis pas misogyne. Hein. Même Cresson, je la vois bien, mais ailleurs. Je la vois bien chez elle, en train de faire le ménage ou s'occuper de ses enfants. Voilà.
Voilà, donc ça, c'était les premières réactions le soir de la nomination. Alors, il y en a qui se sont donnés à cœur joie, bien sûr. Hein, à commencer par, vous vous souvenez de cette émission qui s'appelait le Bébé de Show? Vous vous souvenez? Je vous ai pris un petit florilège.
Tout ça pour me virer comme un malpropre et pour mettre qui, je vous le demande, une gonzesse. Pourquoi pas un noir pendant qu'on y est? Qu'est-ce que tu lui trouves?
Ouais. Eh ben, rien. Justement, rien. Voilà, comme ça, elle me fera pas d'ombre. Hein. Parce que physiquement, elle est pas...
Non, hein, c'est... Oui,
on la voit pas. Hein. Bon, ce qu'elle raconte ou rien, c'est pareil. Et elle fait tout ce que je lui dis. Je l'ai appelée à ma botte. Cresson, à ma botte. Oui, mais botte de Cresson. Ouais. Ah, vous allez voir, vous allez voir. Hein. Edith, hein, à ma botte. Voilà. Alors voilà, alors. Eh ben, elle est nulle, elle est minable. Vous avez vu ce que j'ai dit dans Le Figaro? C'est le perroquet du Vioc. Alors ça, c'est vraiment injuste. Hein. Mais la presse a raison. Elle est conne comme une valise sans poignet.
Alors bon, alors d'accord, c'était
une émission... On va saluer la mémoire de Jean Roucas aussi.
C'était une émission qui se voulait humoristique, mais bon, ça taillait quand même pas mal. Et lorsqu'elle se présentait quelquefois, elle avait quelques problèmes. Un exemple, un seul exemple, celui-ci.
Quand je suis arrivée au ministère de l'Agriculture, donc la FNSEA toujours avait donné une grande réunion, et j'y suis allée, et il y avait une grande banderole d'un bout à l'autre de la salle où il était écrit « Edith, on t'espère, meilleur au lit qu'au ministère ».
Voilà, ça donnait un petit peu l'ambiance de l'époque.
Oui, enfin, c'est bien qu'on en soit sorti un peu quand même.
Oui, c'est bien, tu as raison, c'est bien qu'on
parce que là, c'est très très lourd, ça fait peur, mais on n'ose même pas imaginer que ça ait pu exister.
C'est terrible hein, quand même, quand on réécoute ça avec le recul,
un peu honte.
On se dit, waouh, quand même, et même, alors bon, émission humoristique certes, mais bon, c'est, le micro-trottoir, vous l'avez entendu, c'était quand même un peu terrible, et puis surtout... invité donc au ministère de l'Agriculture avec cette banderole.
C'était les années Mitterrand, ça, il faut le savoir.
C'était les années Mitterrand, oui. Enfin, c'était les années 80,
c'était pas les
90,
années
90,
Mitterrand. C'était une espèce de voilà d'ambiance absolument abominable où effectivement les femmes étaient encore trop. On a entendu. Enfin, leur seule utilité, semble-t-il, était d'être à la cuisine
ou au ménage.
C'est ahurissant. Enfin, ouais. C'est vrai que 30 ans après, ça fait peur.
Ça fait peur, tout à fait. Tu disais que ça commence déjà à s'exciter autour d'Elisabeth Borne. Eh ben, y a déjà un sondage qui est sorti. Alors là, c'est formidable, puisque 18%, seulement 18% des Français jugent qu'elle sera une bonne première ministre. Voilà, c'est formidable. Comment juger le travail d'une première ministre ou d'un premier ministre sans l'avoir laissé au moins faire ses preuves? Ben voilà, ça veut dire qu'il y a près de 80% des Français qui trouvent que ouais, ça va pas être terrible. C'est quand même. On a avancé, mais c'est quand même
un
dur.
Un tout petit peu.
C'est quand même difficile.
Non, c'est-à-dire que la popularité se mesure à l'aune de, on va dire, des spectacle médiatique que les ténors nous apportent, mais c'est vrai que Mme Borne était quand même assez discrète dans son métier. Ouais. Elle a fait passer certaines réformes, ni vues ni connues, qui paraît-il sont assez conséquentes dans leur durée et dans leurs effets.
On va parler des législatives, hein, bien sûr. Voilà, on s'en approche. Alors, la NUP ou la NUPES, je ne sais pas comment tu l'appelles, toi. La NUP ou la NUPES?
Ah ouais, moi, je ne l'appelle pas.
D'accord. Est annoncée, évidemment, en tête du premier tour, mais distancée au second tour, vu notre système électoral, qui n'est pas pour le coup très représentatif hein, des différents courants politiques sur le territoire. D'ailleurs... N'est-ce pas un problème aujourd'hui, Bernard? Doit-on revoir ce système? Bonne question.
Non, mais c'est bon, c'est une question piège.
Ah bah oui.
Non, mais moi, je suis depuis longtemps favorable à un changement assez massif de la Constitution. C'est-à-dire que je pense que je ne suis pas le seul, mais que petit à petit, la présidentialisation du système politique en France a contribuer, c'est pas la seule explication, mais à contribuer quand même à polariser entre ce qu'on voit aujourd'hui, d'une part un centre qui est peu idéologique, qui se veut techno, qui manque d'empathie, et puis d'un autre côté, deux extrêmes qui veulent tous les deux rassembler tous ceux qui se sentent oubliés.
Exclus.
Voilà, exclus. Et il n'y a plus de débat. Il n'y a pas de véritable compromis. On a petit à petit, enfin, du fait de, quand il y avait une alternance, tendance à toujours considérer que ce qu'avait fait le prédécesseur n'avait aucune valeur et qu'il fallait le détruire. Et petit à petit, ça a décrédibilisé la politique, et en particulier les partis de gouvernement. Alors qu'on voit dans... nos pays amis, voisins...
Tu veux dire en local? Ah oui, d'accord, ok.
Non, voisins,
à l'extérieur,
enfin, que un système parlementaire qui, avec une proportionnelle large ne donne pas des majorités franches et fermes, oblige à une forme de dialogue, de compromis, de co-construction d'une politique qui fait que quand il y a des changements, on ne considère pas que tout ce qui a été fait avant n'a aucune valeur parce qu'on a aussi contribué à le construire. Et je pense que, moi je suis social-démocrate dans l'âme, j'ai le reste et je continue à penser que c'est probablement la meilleure manière d'envisager la politique, mais on voit d'ailleurs que dans les pays qui ont une structure avec cette parlementarisation du système et une proportionnelle forte, vivent toujours ces partis de gouvernement qui ont une forme de sérieux, qui peuvent envisager les problèmes, qui sont capables de débattre avec les autres, qui sont capables de compromis et qui font avancer. Alors souvent, c'est pas la révolution, c'est des petits pas, mais ça permet d'avancer doucement vers des solutions durables. Et c'est ce qui nous manque de plus en plus en France.
Jeannot, je crois que De Gaulle avait créé ça, ce système-là, de manière à pouvoir être peinard, hein, en gros.
Ça, c'est-à-dire que, vu ses mémoires de guerre dans lesquelles il cite effectivement la défaite de 1940 en disant que pour que éviter cette défaite, il lui fallut qu'on ait un chef et qu'on ait eu un État. On n'avait ni l'un ni l'autre. Mmh. Donc c'est vrai que cette absence d'État, au moment des périodes les plus difficiles, cruciales de l'histoire française, c'est important d'avoir un exécutif fort. Maintenant, c'est vrai qu'il faudrait l'amender maintenant. Je pense vers un régime présidentiel complet, c'est-à-dire avec une stricte indépendance des pouvoirs comme on le connaît aux États-Unis, c'est-à-dire que le Parlement ayant un pouvoir de contrôle et de gestion des fonds, etc., etc., et évidemment, le président ne pouvant plus faire n'importe quoi comme il l'a fait, d'ailleurs, en disant que, quel que soit le coût, il avait engagé un certain nombre de... Ils ont ouvert les robinets pour ce qui concerne le soutien aux entreprises, c'est bien, mais maintenant il va falloir rembourser tout ça, c'est pas évident. Donc quoi qu'il en coûte, c'est vrai que c'est quelque chose qui aurait eu des difficultés à passer si on avait eu un véritable Parlement. Alors il faut effectivement d'abord réformer ce problème des pouvoirs de l'exécutif et des pouvoirs du législatif, pouvoir judiciaire aussi, qui n'est pas réellement indépendant, le pouvoir judiciaire. Quand tu sais que les magistrats du parquet sont effectivement directement dépendants de la chancellerie qui, elle, est dépendante du ministère de la Justice, c'est clair que c'est pas logique. Donc il y a beaucoup de choses à changer dans notre système. C'est vrai que maintenant, de là, de revenir à la 4e République, je ne suis pas tellement d'accord.
Mais il ne s'agit pas de la 4e République. On peut inventer des systèmes qui marchent. Enfin, la 4e République, d'ailleurs, enfin, on en dit beaucoup, beaucoup de mal parce qu'elle a engendré une forme de... Comment dire ? C'est vrai que les gouvernements changeaient souvent et trop souvent. Mais en même temps, c'est pas la pire période en matière de développement économique qu'ait connue la France. Donc ça n'a pas empêché, par ailleurs, les choses de se faire. Et il y a même en Europe des pays qui, parfois, avec des carences de gouvernement pendant plusieurs mois, n'ont pas pour autant perdu toute... leur chance de progresser.
On l'a vu avec la Belgique. Hein. Avec,
et pas que. La Belgique,
plus d'un an.
Mais même en Allemagne, c'est pas toujours simple. Hein. Ils mettent plusieurs semaines, voire plusieurs mois à trouver un compromis. Mais ces compromis, en général, ont l'avantage de durer.
Évidemment, le problème, c'est qu'ils sont plombés par la Deuxième Guerre mondiale et le souvenir de cette atrocité qui fait qu'ils ont été mis au banc des nations pendant des années. Ils ne veulent pas revenir dans le même style de management. Donc c'est vrai qu'ils sont un peu timorés parce que l'Allemagne est un géant économique et un nain politique pour l'instant. Maintenant c'est vrai qu'avec les différentes décisions qu'ils ont prises récemment en faveur de fourniture d'armes pour l'Ukraine, c'est différent, ça change un petit peu. Mais c'est vrai qu'il faudrait qu'ils se réveillent, tu comprends, c'est ça le problème, c'est que tous ces régimes parlementaires auxquels tu fais allusion, qui présentent effectivement une réussite sur le devant de la scène, c'est quand même des gens qui sont cool, qui n'ont pas envie de quoi que ce soit au niveau de la politique internationale, c'est ça le problème.
Alors ça, c'est un autre problème. Proportionnel.
Simplement, pour finir, que si les lois constitutionnelles de 1875 qui ont créé la Troisième République ont été reprises en grande partie par la Constitution du 4 octobre 1946, c'est parce que il y a eu MacMahon le président de la République à l'époque, qui a fait une bêtise, c'est-à-dire que vous savez, cette fameuse se soumettre ou se démettre, c'est-à-dire qu'il avait la possibilité de dissoudre l'Assemblée, à condition de, bien entendu, de respecter cette prérogative qui lui était donnée. Il a refusé, donc il ne l'a pas fait. Donc cet usage constitutionnel a disparu, ce qui fait que le président, jusqu'à une époque récente, 1958, n'avait plus la possibilité de dissoudre l'Assemblée. C'est pour ça que le fait de changer de gouvernement très régulièrement était simplement l'apanage de cette Assemblée nationale qui était un petit peu trop, on va dire, puissante, omnipuissante, ce qui nous a beaucoup posé de problèmes en 1940. Voilà.
On revient sur un peu de proportionnel. Alors toi, tu es pour beaucoup de proportionnel ou un peu de proportionnel?
Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une proportionnelle suffisante pour qu'il n'y ait pas systématiquement un parti qui ait à lui seul la majorité. Ouais. Voilà, donc, moi, ça peut être peut-être 50% de proportionnel sur, sur l'Assemblée nationale, mais ça, 50%, ça serait bien.
Mmh. D'accord.
Ouais, c'est plutôt bien vu. Moi, pareil, je partage pleinement ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Ce qu'il faut savoir, c'est que les sociétés en général sont de plus en plus complexes, qu'elles sont imbriquées avec, pour nous, l'Europe et la mondialisation, qui génèrent effectivement des prises de décision qui aujourd'hui ne sont pas liées qu'à notre nombril. Donc effectivement, il faut aussi entendre la base, donc la société, et à travers, entre guillemets, les députés, on devrait, à un moment donné, trouver les bons compromis. C'est ce qu'il faut espérer, je ne sais pas si ça va marcher, parce que si derrière les députés n'écoutent pas la nation, n'écoutent pas le commun des mortels, ils iront par idéologie qui peut être tout à fait respectable, mais qui ne correspondra pas effectivement aux besoins de notre société. Et c'est vrai, si aujourd'hui il y a un désamour global du monde politique, c'est que depuis de nombreuses années, depuis des décennies, il y a une forme d'autisme, avec tout le respect qu'on doit, entre les politiques et la nation. Donc il y a un moment donné, il faut, moi je partage ce que vous dites, il faut effectivement une diversité, il faut remettre en place effectivement la Constitution, peut-être pas la 6ème République et surtout pas Mélenchon au milieu, puisqu'il prône ça à fond, mais je pense pas qu'il sera aussi vertueux que ce qu'il dit. Oui. Donc voilà, bon, grosso modo, c'est ce que je retiens, il faut évoluer, ça serait une forme de modernité que d'un moment donné de représenter réellement, et ça serait aussi un engagement, une responsabilité de chacun d'entre nous, de la société, de la nation, à prendre ses responsabilités pour reconstruire un monde entre guillemets meilleur.
Un monde meilleur.
Et juste un mot, c'est que c'était quand même un engagement du président de la République en 2017 qui n'a pas été tenu.
Ouais, mais il y a des circonstances.
Il n'y a pas de circonstances. C'était tout à fait. Il n'y avait pas de circonstances.
Il n'y a pas de circonstances et puis c'est tout.
Non, mais ça a été. Et d'ailleurs, François Bayrou l'a rappelé à plusieurs reprises. C'était un engagement. Il a à plusieurs reprises dit qu'il était tout parfaitement tenable. Et on peut au moins faire confiance à François Bayrou pour là-dessus, pour que quand il affirme que c'est possible, ça l'était. Ça n'a pas été voulu. C'est tout. Non.
C'est un bon cuisinier, lui aussi.
Non, pas tout à fait. Non, mais il y avait absolument aucune volonté du président. Il y avait aucune. Enfin, Macron visiblement s'est engagé à ça pour faire plaisir à l'époque à Bayrou, ne l'a pas tenu, ne tient pas à le tenir, et c'est en ça quand même. Ça fait partie des choses sur lesquelles Macron est peu digne de confiance. C'est-à-dire qu'il prend des engagements circonstanciels et derrière il ne se passe rien. Ça a été le cas avec avec
proportionnel.
La proportionnelle, mais ça a été le cas aussi quand il a lancé ce grand débat écologique où soi-disant, voilà, on allait prendre tout et puis le soumettre au Parlement et au final ça n'a absolument rien donné. Ça a été le cas avec ces grands débats dont on attend toujours et le verbatim et ce qu'on allait en sortir après les gilets jaunes, etc. etc. Donc il y a quand même...
C'est un homme politique.
Non, c'est un homme politique qui a la totalité quasiment des pouvoirs en France qui souvent s'expriment sans mettre en œuvre derrière sa parole. Et sa parole, petit à petit, se dévalorise. Et la parole du président qui se dévalorise, c'est l'ensemble de la classe politique, l'ensemble du système politique qui se dévalorise. Donc c'est jamais bon qu'un président, quand il s'exprime, ne tienne pas ses engagements.